Tu écoutes CFLC Balado.
La radio de ton magazine qui fout la chienne.
Avec Pierre Duquet et Lucas Jalbert. D'après le magazine et la websérie de Lucas Jalbert et Samuel Roy. Disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Une présentation de Cabron Productions.
Salut et bienvenue à CFLC Balado, la radio web de ton magazine qui fout la chienne. Bonsoir Pierre Duquet.
Bonsoir Lucas Jalbert.
On a toujours envie de dire bonsoir, hein?
Ouais. Ben c'est ça, en tout cas, on le dit à chaque fois, vous l'écoutez le matin, vous l'écoutez en pleine nuit.
Nous, on l'enregistre l'après-midi. Le soir.
On l'enregistre le soir.
Voilà.
Parce que ça crée une belle ambiance.
Tout à fait, absolument. De quoi vas-tu nous parler ce soir?
Ah, je vais vous parler de l'île d'Anticosti, mais en vous ramenant dans des énigmes de la Deuxième Guerre mondiale, ou juste avant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des Allemands voulaient acheter l'île d'Anticosti au Québec.
Oh, wow!
1937.
J'ai déjà hâte d'entendre ça.
Puis il y a une histoire d'espion aussi.
Oh! Bon, dis, comment c'était peur, hein, cette fois-là?
Tout à fait, ben, c'est ça qu'on veut.
C'est le but. Alors, mais tout juste avant, on va enchaîner avec les actualités qui foutent la chienne.
L'actualité qui fout la chienne. Qui fout la chienne.
Alors, on a une grosse soirée à faire, toi et moi, ensemble, et avec tes autres acolytes.
Tout à fait, avec Jonathan Reynolds, qui est co-organisateur avec moi de la soirée qui fout la chienne, ainsi que Samuel Roy, qui est mon collègue sur le magazine Ça fout la chaîne. Donc, le 5 octobre, donc demain, à la suite du balado, la soirée qui fout la chaîne au Patro de Lévis. Donc, un mini salon du livre avec un peu de Comic-Con. Donc, les gens déguisés. On va avoir des artistes, des auteurs de romans jeunesse d'épouvante.
Comme un petit salon du livre de l'épouvante.
Absolument. Ouais. On va avoir Danny Drouin avec son Bazar de la terreur. Donc,
Bazar de la terreur. Oui. Explique un peu plus. Paraît qu'il y a des articles, lui, à vendre absolument incroyables.
Ah, écoute, je pense qu'il a ressassé du matériel d'un peu partout dans le monde. Tu vas avoir des affiches d'un film d'horreur en particulier. Il peut avoir la version italienne, hollandaise, japonaise, américaine. Il y a des figurines, des films, des romans. Je pense que tous les romans de Stephen King, il les a dans toutes les éditions possibles. Donc, venez faire votre tour. Et aussi, il y aura le tapis rouge de la web-série qui fout la chaîne avec une partie de la distribution des jeunes acteurs. Et toi, Pierre, tu seras sur place pour animer différents panels.
Ben oui, c'est ça. Tu m'as chargé de ça. Donc, avec des auteurs de livres d'épouvante, d'horreur.
Donc, nos invités de la soirée.
C'est ça. Alors, je me ferai plaisir de le faire.
Et avec les jeunes aussi, les parents qui
ben
ont
oui,
participé.
Ah oui, c'est vrai, on va demander aux parents et aux jeunes qui ont participé à des web-séries. Soit dit en passant, il va y avoir un peintre là-dedans.
Oui, je crois que c'est Saganasqual, son nom d'artiste, et il va peindre, il va donc faire une toile en direct sur place durant toute la soirée. Alors, venez assister à ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura aussi un concours de dessin sur place et plusieurs tirages aussi, beaucoup de prix.
Et tu as aussi dans l'actualité quelques éléments supplémentaires, dont un extrait d'entrevue, je pense.
Tout à fait, avec Pierre-Alexandre Bonin, artiste prolifique côté horreur en roman, aussi fan invétéré et spécialiste de Stephen King, qui va sortir son prochain roman, qui va faire partie de la collection de la Cabinet de minuit, édité aux éditions ADA dans la collection Espoir en Cannes. Donc, je pense que le tome 1 s'intitule L'abomination du lac Christ. Et donc, il y aura une entrevue...
Le lac Coplitz.
Ouais. Et donc, il y aura une entrevue complète écrite dans le numéro anniversaire, le numéro 5 du magazine qui va paraître en octobre. Mais j'ai un extrait sonore pour vous de l'entrevue que j'ai fait avec lui où je lui demandais, selon lui, qu'est-ce qui intéresse autant les adolescents et la jeunesse à l'horreur et pourquoi écrire pour ce public-là. Voici donc ce qu'il en a résulté comme réflexion.
Parce que je pense que c'est le public idéal, parce qu'on peut aller plus loin avec les ados. Quand on descend plus jeune, il y a certaines thématiques, certaines choses qu'on peut pas faire. Et moi, j'avais vraiment envie de me lâcher lousse, d'avoir du plaisir. Et Roderick, là-dessus, Rod m'a vraiment laissé en masse de lousse. Donc, j'étais très, très content. Donc, c'est clair que pour moi, c'était normal de parler aux ados parce que je me dis ils sont capables d'en prendre un peu plus justement que les enfants et ça me permettait de me lâcher plus lousse. Mais je pense aussi que l'adolescence est une période qui est littéralement horrifiante et qui est terrifiante aussi. Je veux dire, les garçons, on a l'équivalent, en fait. On est pratiquement des loups-garous, hein, à l'adolescence. On a le poil qui pousse, on grandit, on gagne en masse musculaire. C'est vraiment un phénomène biologique qu'on pourrait mettre de façon horrifiante dans un film avec plein d'effets spéciaux, puis des bruits d'os, des bruits d'os qui croulent chez tout. Donc c'est quelque chose d'assez terrifiant. Les filles aussi, c'est la même chose. Donc le corps change et tout. Elles se mettent à saigner, vraiment, spontanément, pratiquement spontanément. Donc, et là, on a la métaphore assez directe avec Carrie, justement, de Stephen King, toujours. Pour moi, c'est pour ça, je pense, que les ados aiment autant l'horreur et l'épouvante aussi, parce que ça leur montre que l'adolescence a beau être horrible, il y a toujours pire qu'une poussée d'acné ou la voix qui mue. Je veux dire, on peut être poursuivi par Freddy Krueger ou on peut se retrouver confronté à une secte satanique. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, le fait qu'on se rassure un peu en trouvant pire que ce qui nous arrive. Mais je pense aussi qu'il y a toute la question de l'interdit, du tabou un peu aussi, qui fascine les jeunes, les adolescents aussi, parce que l'adolescence, on est en période de confrontation et aussi beaucoup, et je pense que le roman d'horreur permet de se transporter dans une situation de confrontation, justement, et on peut transposer tellement de choses dans les monstres et les tueurs de ces romans-là et tout, plein de nos angoisses à nous qui peuvent être transférées là-dedans, et en même temps aussi, il y a le fait que c'est un rush d'adrénaline. Quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, c'est un rush d'adrénaline qu'on vit par procuration aussi. Donc, ce sont des sensations fortes qu'on va chercher aussi.
Et alors, je vous invite à vous procurer ce roman qui va paraître ce mois-ci, le mois d'octobre, dans toutes les bonnes librairies. Et aussi, ben, on est allé ensemble avec une partie de l'équipe de Ça fout la chaîne et aussi deux abonnés gagnants.
Oui, au cinéma Lido de Lévis.
Tout à fait, qui avait offert pour l'occasion donc de la sortie du film Ça, chapitre 2, deux laissés-passer. Donc, il y a deux de nos abonnés qui ont gagné ce prix là et qui sont venus visionner avec nous le film de 2h45 tout de même, et à la sortie du film on pouvait faire une entrevue avec eux, donc à chaud, une critique très rapide à chaud avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Alors je vous fais entendre cette mini critique.
Salut tout le monde, Lucas Jalbert en compagnie de Samuel Roy.
C'est qui ça?
Ben c'est toi, en tout cas, okay. Seigneur, on est mal parti. On est en direct du cinéma Lido de Lévis. On assistait à la première du film Ça, chapitre 2, avec nos deux abonnés gagnants qui avaient participé à notre concours, Félix Brousseau et Raphaël Bernier-Breton. Salut les gars, ça va bien?
Ouais, toi?
Alors, je vais me retourner vers mon comparse Sam. Tes premières impressions du film? Au revoir.
C'est quand même très bien, quand même assez fidèle au roman encore une fois, sauf à la fin, j'ai de vendre le punch. Puis non, mais j'ai quand même bien aimé, mais le premier est imbattable. Honnêtement, là, la façon que ça a été adapté, le premier chapitre, j'ai trouvé que c'était mieux que le deuxième, mais ça reste un super de bon film là, que je conseille.
À tous et toutes. Quand même 2h45, pas loin du 3h. On a envie de pipi trois fois facile. Ah oui. Raphaël, toi, comment tes premières impressions? Parce que je sais que t'avais bien aimé le premier aussi. Qu'en est-il de celui-ci?
Moi, c'est un peu pareil. Là. J'ai préféré le premier, mais ça reste un bon film. C'était un peu long, mais sinon, ben ça, là, ça faisait quand même peur pareil. Là.
Moi, j'ai remarqué que t'as fait quelques sauts.
Il y en avait une couple de monde, une couple de jumpscares, là, que ça venait de chercher au cœur, là.
Ah, vraiment?
Je regardais ma montre, à un moment donné, je suis rendu à 90 BPM, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe?
Toi, Félix?
Moi, ça a vraiment été un bon film. Sérieusement, je trouve qu'il est en saut. Pour faire des sauts, je trouve qu'il est meilleur que le premier. Moi, je les ai pas comptés, là. en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Effectivement, il y a beaucoup de sauts, de jumpscares. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment une bonne expérience.
Et pour terminer, est-ce qu'il y a un moment dans le film, une scène en particulier qui vous a fait que vous avez apprécié plus que les autres?
Ouais, c'est que la grand-mère, là, je pense. Ça les a plus peur. Ouais.
Le bout qui revient quand ils sont dans les égouts, là, ouais. Ça, c'était quand même. C'est
maintenant, cool!
Ouais, t'es vraiment dû pour le CHSLD, franchement, là, c'était épouvantable. Ah bon, ben alors, un gros merci d'avoir assisté. Moi, j'ai adoré, j'ai bien aimé le film. Comme tu dis, la fin n'est pas tout à fait à l'image du roman typique de Stephen King. Mais moi, la séquence que j'ai le plus adorée, c'est le clin d'œil, le caméo du King en personne. Donc, Stephen King, on vous laisse deviner dans quelle scène quand vous allez regarder le film. Mais ça valait le coup d'œil, franchement. J'ai adoré voir Stephen King. Alors, sur ce, bon cinéma à tous et allez tous flotter en bas une dernière fois. Au revoir.
Et toi, Pierre, avais-tu apprécié?
Oui, j'avais apprécié, d'autant plus que je reprochais au premier, que j'ai beaucoup aimé les jeunes à l'époque, des préadolescences ou adolescences, là, mais ça avait été trop long dans le souterrain. Là.
Ouais.
Et dans le deuxième, finalement...
on s'attendait à pire.
Ça s'est écourté un peu dans le sous-sol. On lui a réglé son compte au clown, mais ouais. Il ne va pas revenir encore une troisième fois.
Là. Ben, je peux pas. Là, c'est ce qui est en train de se mijoter, parce que l'œuvre originale de Stephen King compte deux bouquins. Donc, on les a transposés à l'écran maintenant. Mais là, ce qu'on a envie de savoir, c'est d'où vient cette fameuse créature qui a pris la forme d'un clown et qui prend la forme de toutes les peurs des enfants. Donc, peut-être revenir dans un film préquel ou creuser un peu plus ce personnage.
Mais est-ce à dire que Stephen King l'a écrit, ça, ou ce serait l'œuvre d'un scénariste?
Ce serait l'œuvre d'un scénariste puisant à travers toute la mythologie que King a fait autour de ce personnage-là. Parce qu'évidemment, dans les deux films qui ont été produits, on n'a pas tout retiré des romans. Donc, il y a vraiment un gros matériel de recherche côté de Stephen King, de création. Donc, on irait plonger là-dedans pour créer une histoire originale. Et Bill Sarsgaard, qui a incarné le clown, est déjà partant pour reprendre les habits du pantin.
Si on consulte King là-dessus, il va dire « Oh, c'est un petit clown gonflable que j'avais quand j'étais jeune.
» Qui sait, qui sait.
OK, une petite pause et on se retrouve avec mes histoires.
Qui foutent la chienne, oui. Allemande.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Une mise en contexte pour ceux qui sont moins familiers avec l'île d'Anticosti que j'ai eu le plaisir de visiter pendant à peu près 40 à 50 heures.
Je pensais que tu as dit pendant 40 à 50
non,
ans.
Non, il y a quelques années. Mais c'est un endroit magnifique, extraordinaire, et je pense que c'est à préserver à tout prix.
Oui, absolument.
Une nature incroyable. Puis des chevreuils, en voulez-vous, il y en a en v'là. Alors, une mise en contexte. En 1895, le riche chocolatier français Henri Meunier se porte acquéreur de l'île d'Anticosti pour la somme, écoutez, on est en 1895, 125 000 $
pour l'île au complet.
Ouais, il était plein
avec
aux ans, ce bonhomme. Alors, ce qui veut dire 1895, 125 000 $ c'est peut-être un million, un milliard et plus aujourd'hui.
Oui,
pour en faire son paradis de chasse, Henri Meunier y investira des sommes colossales en y développant notamment l'industrie des pâtes de bois et de la pêche au homard, après y avoir introduit de nombreux animaux, dont 220 cerfs de Virginie. Il y construit en 1900 une somptueuse villa au coût de 130 000 $ encore une fortune pour l'époque.
Une villa qui coûte aussi cher que l'île, finalement.
Ben oui, tout à fait, tu as raison. Tu comptes bien.
5 000 différents.
C'est ça. Alors, le 3 octobre 1953, le gestionnaire de la papetière Consolidated Bathurst, Frank Wilcox, et son assistant
explosent, vont
sciemment mettre le feu, quasiment, à ce joyau du patrimoine historique. Et là, je fais référence à la villa que Meunier avait construit et qui est aussi appelée le Château Meunier. Alors, prétextant que l'édifice vidé de son contenu représentait un risque d'incendie, ils ont foutu le feu. Ça, c'est vraiment désolant, Luca. Au moment où je parle, vous voyez les photos pour ceux qui écoutent le balado sur nos pages YouTube et
Facebook.
Et Facebook,
ouais.
Alors que sur Balado Québec, c'est Sonic Sonore. Alors, si vous voulez voir des images de ça, on a la villa enflammée. On voit l'intérieur avant qu'elle soit, etc. Là, c'est un joyau. Là, c'est vraiment une saloperie que ce Frank Wilcox a fait avec son associé.
Voilà.
Et les plus fréquents et épais brouillards qui entourent l'île d'Anticosti ont causé de nombreux naufrages au fil des ans. Et les navires s'y sont aventurés et que trop près l'ont fait à leur risque et péril. Et on retrouve encore aujourd'hui des épaves sur ces rivages. J'en ai photographié une, d'ailleurs, on voit la photo au moment où je vous parle. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands, les U-boats, comme on les appelait, ils appelaient aussi les loups gris, ont sillonné les eaux du golfe Saint-Laurent. Et pendant la bataille du Saint-Laurent de 1942-1944, ces loups gris gris ont coulé 23 navires, dont plusieurs navires de guerre canadiens. Ils se sont rendus jusqu'à Rimouski, les sous-marins.
Hey, tout de même.
Pensez-y. Et toutefois, une histoire moins connue concernant l'île d'Anticosti, c'est le grand intérêt manifesté par un groupe d'Allemands pour en faire l'acquisition au cours des années 1937 et 1938. Oh. Et au cours des deux années ayant précédé l'entrée en guerre de l'Allemagne nazie, évidemment, qui a eu lieu en 1939. En 1937, la Consolidated Paper, que l'on appelait simplement la console, annonce la mise en vente de l'île d'Anticosti. Et à cette époque, l'Allemagne cherchait de nouvelles sources d'approvisionnement en pulpe de bois, et cette annonce paraissait l'occasion rêvée pour les investisseurs allemands. Oh. D'où leur visite en 1937. On écoute le dossier que j'ai préparé.
Génial.
Dossier. Histoire étonnante et énigme de la Deuxième Guerre mondiale. Qui sont ces mystérieux Allemands qui s'intéressent tant à l'île d'Anticosti et à ses ressources? Qu'est-ce qui les attire de ce côté-ci de l'Atlantique? Pourquoi cet intérêt marqué pour l'île d'Anticosti? Les membres de l'expédition allemande à Anticosti de novembre 1937 étaient au nombre de 13. Le plus connu et intrigant est le professeur Arnold Ergatz, le maître d'œuvre de l'expédition. Il s'avère être un spécialiste dans la construction d'installations portuaires en Europe. On apprendra par la suite qu'en 1943, sa firme d'ingénierie était chargée de construire à Brême, en Allemagne, le plus vaste chantier de construction de sous-marins allemands, ceux-là même qui viendront semer la terreur dans les eaux du Saint-Laurent pendant la Seconde Guerre mondiale. Des témoignages recueillis auprès des résidents de l'île d'Anticosti ont permis d'apprendre que l'un des experts allemands semblait bien informé sur les caractéristiques du port et les aspects portant sur la défense militaire. Dans l'ensemble, les membres de l'expédition allemande démontraient un vif intérêt pour l'île sans nécessairement s'intéresser au potentiel forestier. Ceux-ci ont mobilisé 5 avions pour survoler l'île de fond en comble. Il est permis de croire que les informations colligées par les investisseurs allemands concernaient sa situation géographique, sa géologie, ses ressources, ainsi que tout le territoire qui couvre la côte nord de cette île à Blanc-Sablon et la Gaspésie de la baie de Gaspé à Montjoly. Ces informations ont certainement été très utiles aux sous-marins allemands qui, de 1942 à 1944, ont coulé 23 navires dans le fleuve Saint-Laurent. L'île d'Anticosti ne sera pas vendue aux Allemands puisque le Canada allait entrer en guerre contre l'Allemagne en 1939. Il faudra attendre jusqu'au 11 décembre 1974 pour que le gouvernement du Québec, dirigé par Robert Bourassa, acquiert l'île pour la somme de 23 millions de dollars.
Très intéressant, ça. Et pour ceux qui nous visionnent, en plus de nous écouter, ça vaut la peine, là, les documents que tu nous prépares, là, visuellement.
C'est ça,
là,
c'est ça. Il y a des images vidéo et autres, et des photos de ce groupe de 13 ou 12 Allemands. Toute cette histoire, je l'ai vue rapportée par le livre de Hugues Théoret, publié par la Maison d'édition de Québec, alors qu'il parle justement de cette tentative d'achat. Mais ce que je n'ai pas décrit, parce que ce serait trop long, c'est que ça fait toute une histoire. Ça tend au gouvernement d'Ottawa, qui était gouverné, le premier ministre était Mackenzie King,
okay, oui.
et au Québec, c'est Maurice Duplessis, qui lui, dès le début, dit « Non, on ne vendra pas l'île d'Anticosti aux Allemands! » Et puis il a dit ça pendant des années, et même la guerre était terminée, puis il disait encore « C'est grâce à moi qu'on n'a pas vendu! » Mais dans le fond, effectivement, il s'y était opposé. Et Mackenzie King, le premier ministre du Canada à l'époque, était allé aux Jeux de Berlin en 1936, oh. avait rencontré Adolf Hitler, et il avait même invité Göring, son ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui est devenu après ça le responsable de l'aviation allemande pour bombarder l'Angleterre. Il l'avait invité à venir chasser ou pêcher à l'île d'Anticosti.
Arrête donc!
Mais l'histoire ne dit pas si Göring y est venu.
Oui.
Une petite pause et on revient avec des espions.
Vous écoutez CFLC Balado sur Balado Québec. Vous pouvez nous regarder sur les pages Facebook, Ça fout la chienne, Cabron Productions et celle de Pierre Duquet, et sur YouTube au même nom de chaîne.
Alors, l'île d'Anticosti, c'était bien beau, mais en Gaspésie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des espions ont été débarqués par ces fameux sous-marins, les U-Boats, les loups gris, comme on les appelait.
Ben oui.
Un en Gaspésie et un peu plus tard, l'autre au Nouveau-Brunswick. Je vous raconte ça dans mon dossier.
Dossier. Histoire étonnante et énigme de la Deuxième Guerre mondiale. Novembre 1942. La présence d'espions allemands dans le Bas-Saint-Laurent augmente au plus haut point les craintes des autorités canadiennes. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1942, un espion allemand dénommé Alfred Waldemar von Danonsky quitte le sous-marin allemand le U-518 à bord d'une chaloupe près de New Carlisle en Gaspésie. Après avoir passé la nuit sur le rivage, il cache ses vêtements et son équipement d'espionnage et entre à l'hôtel de l'endroit pour prendre un petit déjeuner et louer une chambre. Danonsky prétend au propriétaire des lieux qu'il réside à Québec. Le propriétaire le juge étrange. L'individu qui s'exprime avec un fort accent et qui dégage une odeur de diesel le préoccupe. De plus, Danonsky allume ses cigarettes avec des allumettes venant de Belgique, un pays sous l'occupation allemande. L'étranger paie avec un vieux billet de banque qui avait été retiré de la circulation en 1937. Il demande à connaître l'horaire du train pour le lendemain à destination de Montréal. Le fils du propriétaire de l'hôtel alerte la police provinciale qui arrête Danonsky à bord du train qui le mène à Montréal. À cet instant, Danonsky avoue tout. Il confia qu'il était un officier allemand débarqué d'un sous-marin la veille. Il a par la suite été envoyé en Angleterre, où il assista les services secrets britanniques jusqu'à la fin de la guerre. Été 1942, un autre espion allemand, Alfred Langbein, arrive au Canada à bord d'un U-Boat comme Danonsky. Avec quelques milliers de dollars canadiens en poche et muni d'une radio, il se vit confier la mission d'informer Berlin sur les convois d'approvisionnement des forces alliées qui se dirigeaient vers l'Europe. Il séjourna quelque temps au Nouveau-Brunswick, à Saint John, avant de se rendre à Ottawa. Comme son prédécesseur, Langbein se livra aux autorités canadiennes en octobre 1944. Avant la guerre, il avait vécu à Winnipeg et à Montréal. Il raconta à la GRC qu'aussitôt débarqué au Nouveau-Brunswick, il avait enterré son matériel radio avec l'intention bien arrêtée de déserter. N'étant d'aucune utilité pour les autorités canadiennes, Langbein a été envoyé au camp de prisonniers militaires de Fredericton jusqu'à la fin de la guerre.
Je pense qu'il n'a pas compris son métier d'espion.
Non, ou du moins, ça a été amateur, parce que les Allemands étaient quand même assez habiles habituellement, mais là, vraiment, ils ont royalement manqué leur coup. Tu vas nous amener, je pense, maintenant, un peu en rapport avec mon histoire de sous-marin ou de
bateau d'épave échoué, de nazis et tout ça. Je vous amène en 1980 avec le bateau de la mort. On écoute ça.
Cinémaniac, la chronique cinéma des passionnés de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique et de la science-fiction. Cinémaniac. 1980, le bateau de la mort.
Un luxueux paquebot en croisière dans la mer des Caraïbes est détruit par un mystérieux navire qui fonce sur lui. Seuls 9 passagers survivent et cherche refuge sur le cargo destructeur qui paraît abandonné. Une échelle semble pourtant les inviter à monter à son bord. Les machines se mettent alors en marche. Après avoir été malmenés dans un premier naufrage, nos rescapés ont le sentiment de se retrouver sur un vaisseau fantôme allemand de la Seconde Guerre mondiale. Les cales se remettent en marche, faisant avancer la vieille embarcation. Les projecteurs s'allument à nouveau, balançant sur les murs des images d'Hitler. Les morts mystérieuses commencent alors à s'accumuler.
Avant, on pouvait dire, allez au club vidéo, vous allez peut-être trouver le bateau de la mort, mais là, on
Mais là, je vous dirais, allez sur YouTube, il est là en version française.
Il est là!
Mais la qualité est VHS. Là,
oui,
mais il est là au complet.
Mais moi, je suis pas difficile. Quand je retrouve des films gratos sur YouTube, que ce soit qualité VHS, c'est un peu pâle. En autant que le son, je comprends ce qui se dit.
Exact.
Faut pas être fou à être en 14K et en 1800K.
Non, moi, ça ne m'intéresse pas de voir le point noir de l'acteur de toute façon qui est dans le front.
Tout à fait.
Alors, je te parle un peu du film. Donc, lorsqu'il tourne le bateau bateau de la mort. On connaît déjà, on connaît déjà bien Alvin Rakoff. Pierre, le connais-tu?
Non.
Okay. C'est le réalisateur, donc il fait figure de vétéran, scénariste et producteur de séries télévisées au début des années 50. Il commencera rapidement à réaliser certains pilotes de séries qu'il produit, en plus de quelques téléfilms aujourd'hui bien oubliés. Dès les années 70, Rakoff enchaînera alors les réalisations avec un bonheur très inégal, Double jeu avec Roger Moore, Hoffman avec Peter Sellers, Cité en feu, jusqu'à ce fameux bateau de la mort, en pleine mouvance de films d'horreur, d'épouvante, bref, donc de films de la mort. Pour mener à bien son projet, il convoque des acteurs légèrement en perte de vitesse. La preuve flagrante de ce fait est la présence de George Kennedy, qu'on va retrouver à la fin des années 80 avec son rôle de capitaine de la brigade de police de Los Angeles dans la fameuse série L'agent fait la farce aux côtés de Leslie Nielsen. J'adore cet acteur, qui est d'ailleurs décédé, je crois, dans les 2-3 dernières années. Richard Crenna, qui se refera bientôt une belle santé avec son rôle de colonel dans la série des Rambo, Rambo 5 d'ailleurs, Last Blood, qui est paru en septembre dernier, et ainsi que Nick Mancuso, quant à lui plutôt à l'aube d'une carrière où il rejoindra Steven Seagal pour une série de films d'action au début des années 90. Donc, le résultat, disons-le tout de suite, est un film qui vaut avant tout pour son cadre original et son exploitation, tant et si bien qu'on pourrait presque dire que Le bateau de la mort est un peu au film de lieu hanté ce qu'est Meurtre à la Saint-Valentin aux slashers. Donc, rien de bien nouveau ni de très palpitant, si ce n'est un décor intriguant dans une histoire assez banale de gens cloîtrés dans un lieu possédé par des esprits nazis et qui les décimeront les uns après les autres. L'histoire ne tient pas vraiment le cap. Inspirée de façon très lointaine par la légende du Hollandais volant, ce fameux bateau, ce grand voilier.
C'est pas la sœur volante, là.
Non. Non, pas vraiment.
Le Hollandais volant,
c'est l'histoire d'un, l'histoire d'un bateau d'un capitaine. C'est un grand voilier qui a disparu dans les mers. D'ailleurs, j'aurais pu vous raconter cette histoire-là dans mon histoire qui fout la chaîne, mais je vous ai choisi un autre bateau dont je vais vous parler plus tard. Mais je pourrais y revenir un jour. Donc, la situation initiale a le mérite d'être expédiée au profit du rythme, tandis que les personnages sont très peu développés. De fait, leur mort, à l'instar d'une flopée d'autres films de genre horrifique, n'ont pas les effets escompté et c'est dommage. D'ailleurs, niveau mort, le film offre son quota de scènes marquantes. Un enfant parmi les premières victimes, une femme se prenant une douche de sang.
Mon Dieu!
Un protagoniste qui finit écrabouillé dans les rouages mécaniques du navire. Le film est sous une ambiance très bien distillée, que ce soit en extérieur et intérieur, avec très sous-exposé dans ses images, quasi ténébreux. Le bateau qui fait le titre du film est quant à lui un élément très bien exploité, menaçant, offrant de manière constante une proue au trait mortifère, demeure sans aucun doute la vedette principale du film, qui sans lui vaudrait pas grand chose. Donc, grâce.
Pourquoi tu nous en parles finalement?
Ben, moi, ce que j'aime, c'est d'aller chercher des films qui valent pas vraiment tripette, mais qui sont le fun peut-être à regarder. Tu ris finalement, avec des amis.
Tu as tout à fait raison.
Des nanars. Oui, absolument. Puis les jeunes, ça vous fait redécouvrir des films qui ont peut-être inspiré des remakes aujourd'hui. Ouais. Donc,
Parce que des films ratés, parfois, c'est fantastique à écouter. On s'amuse. On dit, mais ça se peut pas. Ils ont pas
D'ailleurs,
fait
Pierre,
ça.
Après le balado, je pense qu'on pourrait se taper Le bateau de la mort.
Alors, qui est sur YouTube, comme tu l'as
Exactement.
Dit tantôt. Et maintenant, tu as une petite histoire aussi qui est un peu en rapport avec mon projet.
Est-ce que j'en parle après la pause?
Mon idée, ben oui, c'est ça, avec mes histoires d'île, puis de sous-marin, puis d'espions.
Exact. Je vous ramène une histoire qui est une légende très bien connue du milieu maritime et pour les gens qui s'intéressent au milieu du surnaturel et des histoires, des mythes et des légendes des mers. Si je vous parle de la Marie Céleste, plusieurs sauront de quoi je parle. Pour les autres, les plus jeunes...
Moi, je connais Marie Quatre Poches.
Marie Quatre Poches! Marie Quatre Poches! Marie et moi,
Céleste.
Pourquoi je connais ça, Marie Quatre Poches?
Ben oui, tu devrais pas connaître ça, t'étais même pas...
C'est l'émission des années 60 québécoise. Ouais. Bref, le Marie Céleste, un bateau qui a été découvert sur les mers, sans son équipage à bord, mystérieusement disparu.
Ah, c'est intéressant.
Alors, je vous en apprends dans mon histoire qui fout la chienne.
Il est l'heure de se faire peur, avec une histoire qui fout la chienne. Dans les annales des disparitions en mer, le nom de la Marie Céleste est resté célèbre. Cette énigme qui n'a toujours pas été résolue contribue largement à entretenir le mythe des vaisseaux fantômes. L'histoire de la marine fourmille de mystères semblables à celui de la marée céleste. Des dizaines de navires ont été ainsi abandonnés soudainement et sans raison apparente par des équipages que l'on n'a jamais revus. Le 5 décembre 1872, le cargo anglais d'Air Gracia repère un voilier qui dérive dans l'Atlantique Nord, à mi-chemin entre les Açores et le Portugal. Le navire zigzague curieusement et presque toutes ses voiles sont carguées. Le capitaine du cargo, David Morehouse, s'aperçoit avec stupeur qu'il s'agit de la Marie Céleste. Fait du hasard, il a dîné à bord du voilier avec son capitaine Benjamin Sporner Briggs un mois plus tôt. Quelques jours après, la Marie Céleste appareillait pour Gênes avec une cargaison de 1700 tonneaux d'alcool pur. À bord, en plus des 7 hommes d'équipage, se trouvait la femme du capitaine et sa petite fille de 2 ans. Le bâtiment ne répondait à aucun signal. Morehouse se décide à monter à bord avec 3 hommes. Le vaisseau se révèle désert et sans canot de sauvetage. Dans les cales, il découvre la cargaison d'alcool et des vivres pour au moins 6 mois. Morehouse s'étonne du désordre indescriptible qui règne dans la cabine du capitaine. Dans le carré des matelots, par contre, tout est en ordre. Le compas et les autres instruments de navigation sont cassés ou ont tout simplement disparu. La dernière mention portée au journal de bord date du 25 novembre. Apparemment, le navire dérive depuis près de 2 semaines et a parcouru environ 500 miles. Les avaries ne sont pourtant pas très importantes. 2 des écoutilles se sont rompues et 1 mètre d'eau environ a envahi la cale. Un tonneau d'alcool a été éventré et une entaille, faite à la hache, apparaît dans l'une des rambardes. Fait étrange, les 6 fenêtres des logements de l'arrière sont condamnées par de la toile et des planches. Un seul indice plaide en faveur d'un acte criminel. Une épée rouillée est découverte sous une couchette. Morehouse ramène le Marie Céleste à Gibraltar pour être examiné par les autorités judiciaires. Les résultats sont décevants. Il n'y a que cette entaille longue de 2 mètres juste au-dessus de la ligne de flottaison qui peut faire penser à un acte criminel. Malgré tout, faute d'explication suffisante, c'est l'hypothèse du crime qui est retenue. Les autorités décident que l'équipage s'est livré à une beuverie, puis a assassiné le capitaine et sa famille avant de s'enfuir dans des canots. Cependant, les armateurs soulignent que le capitaine était très apprécié de ses hommes et que nul autoritarisme exagéré ne régnait sur son vaisseau. En outre, l'alcool contenu dans les tonneaux n'était pas buvable. Elle aurait provoqué des brûlures d'estomac et risquait même de rendre aveugle. Le mystère de la Marie Céleste fait le tour du monde. On finit par renoncer à éclaircir cette énigme et le vaisseau est vendu. La Marie Céleste s'est finalement échouée une dernière fois en 1885, en emportant pour toujours avec elle son secret.
Ben voilà, on a fait le tour de notre... C'est notre 5e balado?
Qui était vraiment au niveau des mers, des océans, des îles et des épaves. Alors, j'espère que vous avez apprécié.
Est-ce qu'on pourrait faire un petit meeting de production live, là, et se dire, on vous en offre en novembre encore?
Oui, tout à fait.
Et on arrête là?
Ou on close ça en décembre?
Ou on en fait un en décembre? On pourrait peut-être trouver des choses en rapport avec Noël.
La Naël, peut-être. Moi, j'aurais peut-être du matériel pour toi.
OK, alors, il y a une forte chance, mesdames et messieurs, et jeunes hommes et jeunes filles, que l'on reviennent en décembre aussi.
Excellent. Alors sur ce, continuez à vous raconter des histoires qui foutent la chienne et...
On se dit... Au revoir!